Sismique.
Oh non, encore une émission sur la bande dessinée.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Strip Sismique, une émission consacrée à la bande dessinée aux fanzines, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Ce soir, pour cette quatrième émission, nous avons la chance de recevoir Zero Calcare pour parler des Kobane Calling, publié dans une deuxième version augmentée par Kambourakis en septembre 2019. En chronique, nous parlerons de La Ligue des Superféministes d'Imirion Mal, publiée par les éditions La Ville Brûle en janvier 2019, Les Linceuls du Nouveau Monde de Christophe Girard, publié par les éditions Les Enfants Rouges en octobre 2019, et on terminera avec Mehmet d'Isabelle Lacelli et Noémie Marsali, publié en octobre 2019 par les éditions L'Emploi du Mois. Mais commençons par l'édito. Et l'édito, c'est moi. Aujourd'hui, les jours de nouveau...
Quoi ?
Ne rigolez pas. Alors, laissez-moi commencer. Aujourd'hui, les jours de notre enregistrement, nous sommes en plein mobilisation contre la réforme des retraites. L'autre jour, nous étions une foule dans la rue. C'était une belle masse. Il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait même pas marcher. La police, même spectacle, beaucoup de fourgons, des canons à eau et quelques bonbons aux lacrymaux. Des trottinettes brûlées sur les trottoirs, vision romantique. Des cris de colère et de joie. J'espère qu'à ces jours, les 30 décembre, nous aurons gagné. J'espère vous parler d'un pays où la réforme des retraites ne sera plus d'actualité. J'espère vous parler d'un pays où Macron et toute sa clique ne sera qu'un souvenir agaçant. Ce soir, donc, on est obligé de parler des politiques. Des politiques et une bande dessinée. Mais il faut s'éloigner un peu d'ici et j'ai du mal à le faire parce que je me dis qu'il faut absolument trouver la façon de lancer la grève générale. Mais sur Facebook, je ne trouve pas de recette pour... Je me dis aussi que les cheminots, nous ne pouvons pas les laisser seuls. La RATP non plus, les hôpitaux aussi, les écoles aussi. Il faut devenir une masse dangereuse. Parce que si on s'était, si on est trop docile, ça peut très mal finir. On part ce soir d'un pays lointain et d'une guerre. Celle que la Turquie est en train de faire contre des peuples sans armée, les Kurdes en Syrie du Nord et leur projet politique en Rojava. Petite parenthèse géopolitique. Malgré les silences de la communauté internationale, l'offensive turque en Syrie du Nord continue. Il y a eu au moins 11 civils, dont 8 enfants, tués le lundi de décembre dans des bombardements turcs près d'une école de la ville de Tal Rifat, dans le nord de la Syrie, sous contrôle kurde, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les tirs d'artillerie des forces turques se sont abattus près d'une école au moment où les enfants sortaient de l'établissement. C'est assez malin tirer sur des enfants à la sortie de l'école. La Turquie, un pays auquel la France a vendu des armes jusqu'en octobre 2019, et pas des cacahuètes. Selon le rapport au Parlement sur l'exportation d'armes de la France, les industriels français ont reçu par la Turquie l'équivalent des 594,5 millions d'euros des commandes en 10 ans, depuis 2009. C'est bien rassurant d'avoir un marché aussi florissant. Des sous et des seins pour toutes et tous et toutes. Vive la croissance économique. Mais revenons à la bande dessinée. Nous parlons ce soir des Kobane Calling. Michel, peux-tu nous résumer les livres en quelques lignes ?
Je peux, oui.
Alors, quelques mots, pardon.
Oui. Alors, j'ai lu Kobane Calling. Donc, il s'agit d'une sorte de carnet de voyage un peu spécial parce que ce n'est pas un carnet de voyage de vacances ou de découverte de la nature. Non, c'est plutôt un voyage militant dans le cadre de l'émission avec un objectif de la part de Zero Calcare en partant... en Syrie, qui est humanitaire et qui est aussi une démonstration de soutien à une coalition donc, qui est menée par des Kurdes qui sont alors en guerre civile, encore maintenant d'ailleurs en Syrie, contre l'État islamique en particulier, ce qui en fait évidemment un barrage, disons, de laisser pour compte et qui travaille pour nous en fait aussi en partie. Alors, l'album se découpe en deux voyages à risque. Il y en a un premier qui est en Turquie. Devant justement la ville de Kobané, et l'autre qui est beaucoup plus long et qui a lieu en Syrie du Nord et qui arrive à Kobané aussi en passant par l'Irak. Donc pourquoi c'est un voyage à risque, c'est parce qu'il faut éviter de se faire arrêter déjà par les autorités turques lors de l'aller, et puis bien sûr il faut aussi éviter de mourir une fois sur place. Donc il y a ici beaucoup plus de peur que de mal, heureusement, mais c'est quand même dangereux et on le ressent tout le long de la lecture. Alors c'est un, pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment captivant et aussi vraiment bien rythmé parce que Zero Calcare a bien alimenté la soif d'avancer dans la lecture avec quelques mises en suspens bien scénarisées. Le style reste similaire aux albums précédents. Il faut savoir que Zero Calcar est souvent donc confronté au monde. On le voit lui, avec son extériorité. Et puis, il y a aussi la partie qui est en lui et qui donc permet une démonstration un peu onirique de son intériorité. C'est assez intéressant et assez marrant souvent. Et donc, sur le fond, Kobané Calling, c'est évidemment le suivi d'une découverte de ces régions de Syrie où donc on a affaire à un monde ébranlé et où les tergiversations sont invisibles. Les personnes ont des histoires personnelles incroyables et une force décuplée par la nécessité et les convictions aussi pratiques que profondes.
Merci Michel. Zero Calcare, vous êtes une référence pour la bande dessinée italienne. Votre vrai nom, c'est Michele Rec. Vos parents sont italiens et français, d'où le fait que vous parliez parfaitement français. Vous êtes connu sous le nom de Zero Calcare, qui signifie zéro calcaire en français, qui est le nom que vous avez, avec lequel vous avez été inscrit sur un forum internet à 16 ans, alors qu'il passait une pub de détergents à la télé. Avant de parler de votre album Kobané Calling, on voudrait en savoir un peu plus sur vous, sur votre approche, votre parcours. Je te laisse la parole, Michel.
Oui, bonjour. Donc, moi je vais commencer. J'aurais aimé dire l'immortacci, tu vois, mais je ne sais pas si je le dis correctement. Donc en fait, vous verrez, vous ne comprenez pas normalement, auditeur, si vous êtes jamais allé à Rome ou vécu en Italie. Et c'est normal puisque c'est une insulte typiquement romaine.
C'est très beau de l'entendre dite par un français.
Mortacci, tu vois. C'est un truc qui me fait marrer en Italie. Bon, alors ma première question, elle est assez simple. C'est, vous êtes dirigé vers la BD. Je ne sais pas si vous avez suivi une formation artistique. En tout cas, comment vous y êtes rentré? Je sais que vous avez toujours dessiné un peu. C'est ça l'idée?
Ouais, j'ai déjà un truc. En fait, je parle pas parfaitement français. J'ai plein de problèmes avec les concordances des temps et tout. Ouais, donc soyez indulgents avec ça.
Ouais, on n'entend pas dans l'accent, c'est ça qui est marrant.
Et j'ai toujours lu des BD depuis que je suis tout petit. Les trucs Disney, Mickey et tout ça. Après, même en grandissant, j'ai accumulé des lectures de BD. J'ai lu tout ce qui était la BD humoristique italienne quand j'avais entre 9 et 10 ans. Après, j'ai lu des mangas, j'ai lu des comics de super-héros et tout ça. Donc, en fait, quand j'ai eu entre 15 et 16 ans, j'ai commencé à... j'écoutais beaucoup de musique punk, j'ai commencé à fréquenter la scène punk romaine et tous mes copains ils jouaient dans des groupes, ils savaient jouer quelques instruments, moi je savais rien faire et la seule chose avec laquelle je pouvais contribuer, c'était de dessiner les affiches et les couvertures des disques et tout ça. Et en fait, et les fanzines. Je faisais des petites histoires dans les fanzines et j'ai commencé comme ça. J'ai pas une formation artistique. Ouais. Classique.
Oh, oui, ouais, c'est assez...
C'est pas ouais.
Et j'ai lu que vous avez beaucoup appris d'Akira Toriyama et son Dragon Ball, notamment pour ce qui concerne l'architecture du visage. Mais je voudrais savoir quels sont vos premiers amours pour ce qui concerne la bande dessinée autobiographique. Quels sont les auteurs que vous avez aimés?
Ouais, je peux même dire copier, plus que... Alors, les deux auteurs dont je suis tombé complètement amoureux quand j'ai lu, c'est un auteur italien, c'est JP, et puis c'est Manuel Arsenet avec Le Combat Ordinaire, et c'est les deux qui m'ont vraiment fait comprendre qu'on pouvait faire une histoire autobiographique, même qui soit pas rocambolesque, mais quand même bien, qui donne envie de lire, qui soit émouvante et tout ça. Mais après, un soir, je suis tombé sur le blog BD de Boulet, et je me suis dit que c'était incroyable, je voulais copier complètement son langage et tout ça. En plus, personne ne le connaissait en Italie, donc je me suis dit personne ne saura jamais. Et donc j'ai toutes mes toutes premières histoires et même mon blog et tout, au début c'était super copié de Boulet.
C'est comme notre Gad Elmaleh, je ne sais pas s'il connaît.
Non, c'est qui?
C'est un humoriste français, mais en fait on s'est aperçu que les humoristes français en fait copiaient massivement des humoristes américains, prenaient les mêmes sketchs. Et ça a été
non, il s'est passé exactement la même chose en Italie avec un humoriste italien, et c'est pour ça que maintenant je le dis toujours parce que j'ai pas envie de finir comme lui.
Ça s'est dit avant.
Voilà, exactement.
Ah mais finalement l'effet. Moi, par exemple, j'aime pas du tout Boulet. J'arrive pas à le lire, alors que bon, j'aime beaucoup vos histoires. Donc effectivement, vous êtes quand même, pour moi, vous êtes quand même détaché de votre modèle initial.
Ouais. Et c'est parce que, comme c'est des histoires autobiographiques, au bout d'un moment, comme on mène des vies différentes, il y en a des caractères différents, ça prend un chemin différent. Mais c'est vrai que c'est vraiment sa grammaire que j'ai copiée.
Il faudrait que j'essaye de relire Boulet. Ouais. Je vais voir. Alors, le contexte de vos histoires,
elle est vôtre. C'est donc Rebibia, un quartier des Roms, les amis, Centri Sociali. En français, je ne sais pas comment on peut traduire Centri Sociali, des squats politiques. Bah, on dirait des centres sociaux. Oui, ça n'existe pas. Et puis, les dialectes des Roms, donc il romanesco, romanaccio. Bref, c'est très italien. Comment ça se passe, la traduction, qui est donc, a été réalisée par Bruno Seban pour qu'il se soit réussi. Est-ce que vous avez travaillé avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Brune, d'accord, ouais, c'est une femme, c'est une pardon.
Et non, je n'ai pas travaillé avec elle. En fait, en vérité, je n'ai même pas revu la traduction. C'est-à-dire qu'elle m'a à chaque fois envoyé en me disant « à ton avis, ça va bien et tout ». Moi, je suis super paresseux, donc je lui répondais « oui, oui, c'est très bien, mais je n'ouvrais même pas le PDF ». Mais j'ai super confiance en elle parce que dès le début, à peine elle a commencé à travailler sur mes bouquins, elle a fait un super travail. Et parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a habité à, c'est quelqu'un de français, mais qui a habité 9 ans à Rome, je crois. Et en plus, dans un des quartiers où se passent plusieurs des histoires, et elle connaît même personnellement plusieurs des personnages de la BD. Donc, elle a tout de suite compris très bien l'esprit, le registre à utiliser, tout ça. Et je trouve qu'elle a fait un super boulot de toutes les traductions dans tous les pays où c'est traduit. Je trouve que la française est la meilleure.
Oui. Ouais. Parce que ça, c'est un truc. Moi, j'ai juste pour rebondir sur cette question-là. Bon, moi, je parle italien parce que j'ai vécu 3 ans en Italie. Donc, en gros, Camilla m'a fait découvrir. Donc, j'ai lu comme ça mes premiers 0,4. Et donc, je voyais bien le côté humoristique était lié au côté romain typique. Et je me suis dit en lisant, Coben Colling la première fois, en français, donc je me suis dit. Là, je sais pas comment ça va passer l'humour et ça marche très bien. Donc je rassure ouais. L'auditeur. Enfin, après, je sais pas si j'ai un filtre qui fait qu'en gros, bon, bref. Mais en tout cas, ça marche. je veux dire que de ce point de vue, ça marche bien. En plus, il y a un glossaire à la fin. Je sais pas si vous l'aviez fait avec les autres albums qui ont déjà été traduits.
En fait, dans tous les albums Cambourakis, il y a le glossaire. Il y en a qu'un qui est de notre éditeur et il y était pas.
Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Vous apprenez un peu de roman aussi.
Ouais.
C'est moi, je peux vous poser une question au passage. Donc, justement, donc on parlait du côté autobiographique. Alors, moi, je dois dire que, à la base, c'est pas forcément évident l'autobiographie. Enfin, maintenant, ça marche très bien dans beaucoup de domaines, que ce soit le théâtre, le cinéma, etc. Donc, on y rencontre souvent, d'ailleurs, vos amis proches, hein, Seco, etc. Il y a même vos parents, là, qui sont toujours dessinés de façon. Déguisé, enfin, sous forme d'animaux. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que votre alter ego, donc celui dessiné là, ne semble pas avoir de, par exemple, de vie. Enfin, on voit sa vie intime à travers ses personnages, mais c'est pas totalement intime. C'est-à-dire qu'il y a pas sa vie sexuelle vraiment, il y a pas, enfin, bon, des fois on peut sentir un peu un truc, mais c'est. Donc, ça m'a fait penser un peu à Tintin. C'est-à-dire que Tintin, quand on reprochait quelque chose à Tintin, on disait, ouais, c'est l'éternel adolescent qui a pas de vie, il y a pas de femme autour de lui, il y a pas de. Enfin, si, il y en a, mais. Alors bon, c'est plus dur hein, chez Tintin, la critique, mais donc je veux savoir, en fait, cette partie de vous qui disparaît, c'est totalement volontaire parce que vous voulez évidemment protéger une partie. Est-ce que vous voulez pas vous mettre totalement à nu? Et comment ça se passe, ce truc-là? C'est quand même. Est-ce qu'il y a une vraie part cachée déjà?
Oui, effectivement, ouais. Oui. Mais alors,
on sait pas tout.
La partie sexuelle, c'est parce que en fait, j'ai honte. Je suis comme un Italien, on dit suor orzolina. C'est un ordre de bonne sœur particulièrement pudique.
Ouais.
Et je serais mal à l'aise de dessiner des actes sexuels. Et, et sinon, parce qu'en fait, c'est quelque chose de super délicat. Parce que je pense toujours que raconter ma vie, mes fragilités, n'importe quoi. Je ne dois pas demander l'autorisation de personne. C'est quelque chose que je peux décider moi où est-ce que, jusqu'où aller ou m'arrêter et tout ça. Mais raconter la vie de quelqu'un d'autre, c'est surtout l'aspect intime.
Ouais.
C'est quelque chose de super délicat. Et en plus, je me suis toujours posé la question si jamais j'ai une relation avec une personne et que ça se termine, après, il y aura ça se termine mal peut-être.
Ah oui.
On voudra jamais plus parler. Elle voudra jamais plus se souvenir de moi. Il y aura toujours un bouquin avec sa vie que tout le monde peut lire et tout ça. Je trouve que c'est quelque chose vraiment. Il faut penser beaucoup. Je peux pas faire ça super simplement.
Ouais, non, mais c'est sûr que c'est. Enfin, d'emblée, c'est délicat, mais on peut. Bon, de fait, vous êtes quand même avec Obané. Il y a une sorte de danger, enfin, qui d'un autre type, par exemple, pourrait penser à la mort. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Donc, on peut se dire. Bon, il a envie de se jeter au feu là-dedans. Est-ce qu'il le fait ou pas volontairement, enfin. Mais après, en fait, finalement, je vais faire un peu ma question suivante là-dessus, sur le rapport à l'intime. C'est que je disais juste avant que c'est pas évident l'œuvre autobiographique. Parce que des fois, alors je sais pas si c'est dû à la vie chiante des gens, mais moi, ça m'arrive souvent de critiquer en disant, franchement, c'est encore une œuvre, ma vie, mon cul, mon œuvre, bon, je m'en fous, en fait, parce que, et ça m'a pas intéressé. Ça n'empêche que des fois, je tombe sur des œuvres comme ça, de type autobiographique, et elles sont en fait super. Pourquoi? Parce que sûrement, elles racontent quelque chose d'intéressant, enfin, quelque chose qui dépasse l'ego. Et alors, ma question, elle est là. C'est est-ce que il y a une est-ce que c'est ça vient un peu naturellement parce que à travers les centres sociaux je sais on vit plein de trucs, enfin bon, Kobané c'est un exemple, c'est une extension de ça, mais puis il y a les amis, etc. Mais est-ce que là aussi c'est un truc réfléchi, est-ce que c'est fait exprès ou enfin ça vient un peu comme ça, puis tant mieux que si...
Alors il y a les deux en fait. Déjà je sais faire que ça, donc la seule chose que je sais faire c'est de traduire ce que je vis et ce que je vois avec un langage et un filtre un peu rigolo, un peu marrant et tout. Et c'est la seule chose que je sais faire, parce que si je devais écrire un scénario de fantasy et tout ça, je serais complètement incapable. Donc ça c'est pas un choix, c'est tout. Et après le choix de qu'est-ce que je raconte et qu'est-ce que je raconte pas et tout ça, ça en fait ça dépend de normalement je cherche de raconter des trucs ou bien des trucs que les gens connaissent pas nécessairement, ou bien même des choses que les personnes connaissent mais qu'elles n'arrivent pas à, comment on dit, mettre à feu, quoi,
mettre à feu,
je sais pas,
mettre à feu, quoi.
Parce que
identifier, façon précise.
Ouais, exactement, à donner un nom. C'est-à-dire que souvent on a des trucs qu'on a en nous, même des faiblesses ou des trucs dont on n'est pas sûr ou des fragilités et tout ça, mais on n'a pas l'habitude d'en parler. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est seulement pour qu'on peut partager avec personne, c'est quelque chose qu'on a seulement en nous, et en fait c'est pas vrai, c'est quelque chose que plusieurs personnes partagent. Et le fait de les lire, souvent moi ça m'arrive quand je regarde un film ou quand je lis un bouquin où je trouve ça, le fait que quelqu'un d'autre l'écrive noir sur blanc et tout, ça crée quelque chose que ça me fait identifier, et souvent j'aime beaucoup ça, et parce que c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller chercher.
Oui. Oui, c'est une façon de poser avec une certaine grammaire les mots, d'accord.
Dans vos albums, Zero Calcare, vous parlez souvent de votre rapport à la politique et du fragile équilibre entre l'auteur super engagé et l'auteur apolitique un peu couillon. On a l'impression que vous y trouvez un équilibre, un point stable. Est-ce que vous vous imaginez que ça changera un jour, que vous arriverez à avoir votre équilibre parfait? Bien, j'ai cette image dans votre dernière bande dessinée où on voit l'auteur super engagé avec une flûte et l'autre. Mais il faudrait. Je posterai, si c'est possible, une capture d'écran avec cette image sur les sites de l'émission pour vous montrer cette représentation parfaite de ce fragile équilibre.
Alors, déjà, moi, je considère énorme le fait que je suis arrivé à trouver ce fragile équilibre. Parce que jusqu'à pendant les 6 ans précédents, ça fait 2 ans à peu près, mais depuis 2011, en fait, c'était deux identités qui se rencontraient jamais. Les gens qui lisaient le blog et qui achetaient les livres, ils savaient pas du tout que j'avais une identité politique militante. Et les gens des squats et des centres sociaux, en fait, ils lisaient que ce que je produisais pour ce milieu-là, et ils regardaient même pas ce que sortait en librairie. Donc, le fait, c'est Kobané Calling, le premier bouquin qui a uni un peu les deux identités. Ça m'a permis de pas devenir complètement schizophrène, et donc le fait que les gens maintenant ils savent qu'il y a les deux trucs, c'est déjà super pour moi. Après c'est vrai que je sais pas si je vais jamais trouver un équilibre stable, parce que c'est vrai que à chaque fois que tu parles d'un thème, il y a toujours quelqu'un qui se plaint parce que tu parles pas assez de l'autre thème et tout, et ça je sais pas si ça existe un équilibre dans ça.
Mais, Je peux poser une question en fait un peu relative à ça là, et puis un petit peu la question d'avant, c'est-à-dire que finalement moi j'ai En fait, c'est peut-être que j'avais identifié déjà dès le début dans toute l'œuvre qu'il y avait un côté militant, parce que on doit le voir à certains moments qu'il y a des centres sociaux qui se baladent, et puis je le sais, donc je pense que ça a toujours été un même goût. Et donc j'ai l'impression que les deux aspects se causent toujours un peu. En fait, surtout avec les amitiés, on voit que c'est dans les amitiés, il y a des gens qui sont assez représentatifs. Et vous avez dit avant, je sais faire que ça en fait, de raconter ma vie, tout ça, donc en partie c'est aussi cette vie-là. Et ma question, c'était, vous avez déjà, j'imagine, pensé à explorer d'autres choses, parce que vous avez fait de la BD, j'ai lu dans un blog, avant, qui était genre futuriste ou je sais pas quoi là.
L'histoire avec les zombies.
Ouais, les zombies. Ouais. Et donc je me suis dit, bah en fait non, s'il a déjà exploré des trucs comme ça, après il est arrivé là-dedans, mais. Je veux savoir si en gros, des fois, ça travaille.
Est-ce que vous avez un chantier futur.
Des chantiers, en fait, des fois, qui sortiraient d'un truc qu'il a, effectivement. Il y a peut-être encore plein de choses à raconter, et puis voilà. Mais le dernier coup, on avait Baudouin, là, qui était venu, là. Et on se pose toujours la même question pour les auteurs, parce qu'au bout d'un moment, ils ont un trait, ils ont une forme, etc. Ils ont une grammaire, et puis, ben, des fois, ils peuvent changer complètement, ou essayer de changer complètement. Après, on retrouve toujours leurs pattes. Et j'imagine, bon, après. Jeune, hein, mais bon.
Alors effectivement, avant, jusqu'avant 2011, en fait, je faisais pas de la BD autographique, donc j'avais déjà essayé. Je trouve que ça marchait pas très très bien. Après, j'ai réessayé une fois d'en faire, et c'est un des bouquins. D'ailleurs, il est traduit en français. 12 heures
à deux dixièmes.
Ouais. Bah, je trouve que ça a pas marché très très bien quand même. Et donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Après. Je fais toujours des petits essais pour comprendre. Parce que moi, mon problème, quand je parle de quelqu'un d'autre, c'est que j'arrive pas vraiment à me mettre dans sa peau. Et donc, c'est des personnages qui... c'est comme s'ils récitaient comme des marionnettes et tout. Mmh. Mais ils ont pas vraiment d'âme, parce que j'arrive pas à leur transmettre une vraie âme, si c'est pas la mienne. Mmh. Mais même dans les derniers bouquins, Au-delà des décombres et tout, j'essayais d'utiliser plusieurs personnages, des personnages qui étaient pas moi, et d'essayer de leur faire éprouver des trucs et tout. C'est en vue, peut-être un jour, d'essayer de faire une histoire où je suis pas présent, mais je sais pas encore.
De la soirée, l'Oltretorrente du groupe Atarassia Group. Nous sommes toujours en compagnie de Zero Calcare.
Zero Calcare, passons maintenant à cet album Kobané Calling, sorti en 2016 en Italie et maintenant dans une nouvelle version en français, édité par Cambourakis en octobre 2019. Michel, je te laisse la parole pour la première question.
Oui. Je tiens d'ailleurs à préciser que si j'ai lu sur le site, ils sont en train de le rééditer parce que ça a l'air de se vendre comme des petits pains.
Ah ouais, je sais pas du tout.
Ouais, j'ai vu là, c'est épuisé, c'est écrit. Mais en réédition.
J'ai jamais trop confiance en ce que écrivent les éditeurs.
Ah, ils mentent.
Je sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la boîte d'édition, ils ont dit, ah, ils viennent d'arriver la nouvelle édition. Mais peut-être
là,
ils en ont imprimé 50.
Hein. Donc ça, ah oui, je sais pas.
Ouais, ouais, faut toujours voir les chiffres.
Bon, ouais, alors c'est une question toute simple. C'est que donc le titre de ce nouvel album, c'est Kobané Calling, donc en anglais, hein, l'appel de Kobané. Et je me disais que ça me faisait penser au titre d'Un Calling, des Clash, et je me demandais si c'était en fait ça la référence, sachant que dans la première strophe, c'est London Calling to the Far Returns, c'est-à-dire Londres, l'appel de Londres aux autres villes, aux villes lointaines exactement. Est-ce que c'est l'origine du titre ?
Oui, tout à fait.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ouais,
c'est le côté punk qui était remonté.
Oui, oui, c'était le côté punk, et pour les paroles de la chanson, et pour le fait que, de toute façon, tous nous qui étions partis, nous partageons tous la même culture musicale.
Donc, vous êtes allé là-bas, à la frontière entre la Turquie et la Syrie, à Kobané aussi, deux fois. Vous êtes à l'origine de l'idée de partir de là-bas. L'objectif était double, une bande dessinée, mais aussi un objectif. Vous avez envie d'aller là-bas pour voir, pour apporter des médicaments, pour apporter de l'aide. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ?
En fait, au début, il n'y avait pas du tout l'idée de la bande dessinée. On était partis juste parce que on avait vu le siège de Kobané par Daesh, on avait un rapport avec la cause kurde depuis longtemps, parce que à Rome, à la fin des années 90, le président du Parti des travailleurs kurdes était venu demander l'asile politique, une bonne partie de la diaspora kurde européenne s'était rendue à Rome, et les centres sociaux, les squats, s'étaient un peu pris en charge de l'accueil de tous ces Kurdes. Et donc, quand on a vu aux infos cette ville de Kobané qui résistait, les combattantes kurdes qui résistaient à Daesh et tout ça, on s'était dit que ce serait bien de les aider, donc apporter des médicaments et même d'apprendre quelque chose de leur expérience. Parce que en plus, on savait plus rien du tout depuis des années des Kurdes, et donc ça nous a même un peu marqué. Et donc, on avait décidé de partir. Et après, effectivement, en fait, la vérité, c'est que à ce moment-là, je travaillais pour un magazine qui était l'équivalent italien du Courrier International, et je leur avais demandé « Est-ce que vous pouvez nous donner des fausses cartes de journalistes ?» Parce qu'en fait, j'avais peur que la police turque ou l'armée turque nous arrête. En fait, et je leur ai dit, si vous voulez un échange, je vous propose un carnet de bord dessiné. Et ils nous ont dit non, parce que ils nous ont dit, mais t'es pas journaliste, tes copains, ils sont pas journalistes. En plus, si on tape leur nom sur Google, on trouve plein de procès en cours et tout, donc non. Et en fait, on a fait nous-mêmes des fausses cartes de journalistes avec leur nom, leur logo et tout ça. Et ça nous a servi. Et au moment où je suis revenu, je me suis dit que quand même, c'était comme on a utilisé quand même leur nom, un truc de gratitude pour de leur faire quand même un carnet de bord. Ça a marché très très bien, c'était les premières 30 pages du bouquin. Et alors je me suis dit que comme ça avait très très bien marché, mais en même temps c'était le récit de même pas une semaine là-bas, on a décidé de revenir en Turquie, en Syrie cette fois, et de vivre un peu plus la vie quotidienne des Kurdes et tout ça, et pour faire un livre un peu plus gros.
Et en écrivant ces livres, pour vous, c'était quoi l'objectif principal ?
Alors, c'était déjà de raconter, parce que il y a aux infos, on parlait beaucoup de l'aspect de la guerre, beaucoup des combattantes kurdes, mais on n'expliquait jamais comment on en était arrivé là, comment est-ce que une ville pouvait être tenue par des combattantes femmes dans le nord de la Syrie, où tous les récits qu'on a, les stéréotypes qu'on a sur cette région sont d'un signe complètement différent. Et en fait, on voulait raconter, moi je voulais surtout raconter l'aspect de la révolution qui a été faite dans le nord de la Syrie, qui, c'est vrai, elle mettait les femmes au centre, mais pas seulement d'un point de vue militaire, même social, économique et tout ça, mais c'était une révolution qui faisait même coexister dans la même région plusieurs religions, ethnies, cultures et peuples différents, et même qui avait un rapport avec l'écologie très très fort, et c'était des choses dont on parlait jamais 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 en Italie.
Donc c'était un objectif quand même d'information, en premier
lieu.
Ouais,
tout à
d'accord. Fait. Et est-ce que vous avez, j'ai trouvé très drôle les moments où vous annoncez à votre parent votre premier départ et votre mère s'inquiète pour la conduite, la façon de conduire des Turcs, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que vous avez eu un peu peur? Comme vous le dites, ce n'était pas un voyage Erasmus. Est-ce que vous avez eu peur aussi au retour des services de sécurité, de sûreté italienne ou pas?
Alors, non, j'ai eu très, très peur avant de partir. Après, quand tu es là, en fait, tu n'as plus peur parce que de toute façon, tu es avec des personnes âgées, des enfants, tout le monde partage la même vie. Tu ne peux pas avoir peur, sinon tu as l'air vraiment bête. Et quand je suis revenu, non, mais moi, de toute façon, les renseignements, les services italiens et tout ça, j'ai... Notre rapport conflictuel date depuis très longtemps, donc il n'y avait rien de particulièrement différent ou nouveau.
Et en visitant les cimetières, il y a un moment très touchant, quand vous êtes en train de visiter les cimetières, un cimetière avec la commandante Nasrin, commandante des forces armées féminines kurdes, elle dit... Lui, c'est mon petit frère. Il était martyr aussi. C'était très dur. Mais j'ai compris que la douleur est la même chose à chaque fois. C'est la même douleur pour chaque camarade qui meurt. On a tous vu des choses horribles dans cette guerre. Ce qui nous sauve, c'est de ne pas oublier pourquoi on résiste. Et donc, je voulais savoir, là maintenant, vous êtes revenu. Est-ce qu'on a, on peut résister aussi d'ici? Est-ce que, comment on peut résister d'ici?
Ben, en fait, je trouve que déjà, on a le combat des Kurdes, c'est pas seulement le combat des Kurdes et c'est tout. C'est pas quelque chose qui concerne seulement un territoire géographique. Et c'est des principes de liberté, d'égalité et tout ça. Et déjà, d'ici, on peut aider ce combat-là en parlant de ça, en racontant même ce qui se passe maintenant avec l'offensive turque, en demandant à nos gouvernements de mettre en cause, de remettre en cause tous les rapports qu'on a du point de vue politique, mais même sportif, économique, commerciaux, culturel avec la Turquie, avec l'État turc, pas avec les individus turcs, bien entendu. Et puis, de toute façon, l'horizon auquel regardent les Kurdes, mais non seulement les peuples de la Syrie du Nord, c'est un horizon qu'on peut essayer de chercher même chez nous. C'est-à-dire que le fait de faire vivre ces principes d'égalité et de solidarité, c'est quelque chose qu'on peut faire chez nous, même dans nos contextes, et c'est également important.
Et maintenant, et restant ici, n'allons pas là-bas, il y a une sorte de contradiction. Par exemple, dans la dernière partie qui a été ajoutée dans la nouvelle version, on parle de Lorenzo Setti Orso, qui est parti pour combattre là-bas. Et il y a comme une sorte de, donc il y a comme une sorte d'appel à aider ces peuples. En même temps, nous, oui, on peut les aider d'ici, on peut faire vivre ces valeurs même ici. Et en même temps, on s'est dit qu'on est quand même en train d'assister à un massacre d'un peuple et on, et si on n'y va pas, on est un peu...
Oui, en même temps, je ne suis pas sûr que... Je pense que chacun de nous doit comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qui est le plus utile et tout. Je pense qu'on a tous des outils différents, en fait. Et que c'est sûr que le choix de ceux qui sont allés là-bas et de ceux qui n'ont pas pu rentrer, ça a été un choix super courageux, le plus courageux de tous. Mais en même temps, je pense qu'il y a même d'autres façons de les aider, que je sais pas, j'ai toujours peur un peu que après, parce que moi par exemple, je suis sûr que je suis complètement incapable d'avoir une arme, et si je vais là-bas, je serai un poids plus qu'une aide. Donc voilà, je pense qu'il y a même d'autres façons.
Vous êtes allé un petit peu aussi pour voir si justement ce modèle un peu démocratique, alors qui tourne autour surtout des Kurdes, parce que c'est eux qui l'installent à travers une espèce de lutte plus ancienne. Mais ils arrivent à fédérer des gens, d'ailleurs des Arabes musulmans, des Yézidis, autour de ces principes-là. Bon, on voit que c'est pas facile, ils sont quand même en état de guerre, donc c'est aussi une certaine nécessité. Et donc, souvent, vous posez des questions, est-ce que ça va correspondre à ce que j'aimerais y voir? Et je me souviens qu'il y a notamment ce passage où il y a ce vieux, je sais plus d'où il est.
Oui, le Turkmène.
Ouais, le Turkmène, voilà. Et en fait, il dit des réponses positives, puis là il y a ouh, ah super, et puis après il raconte d'ailleurs d'autres conneries, donc c'est désagréable, mais c'est lui qui passe pour un con finalement, heureusement quoi. Et en fait je me posais la question, finalement tout a l'air de bien se passer, finalement au sens où vous y trouvez la bonne version. Mais bon, déjà je me disais un état en guerre, enfin où des gens en guerre, il doit se passer toujours des horreurs, mais bon ça fait partie du truc. Est-ce qu'il y a une partie un peu cachée déjà dans ce qui arrive dans l'album, parce que aussi il faut soutenir une cause et on peut pas dire par exemple comme des Américains qui ont aidé au débarquement et qui ont sauvé à cette époque-là contre le nazisme, on peut pas dire oui mais ils ont violé des femmes. Bon bref, est-ce que s'il y avait eu des trucs bien plus lourds, malgré aussi ce qu'on entend dans les mondes militants, parce que c'est ça aussi, vous auriez écrit quelque chose. Enfin, comment ça, c'était pas évident à mon avis.
Alors, si j'avais eu des trucs horribles, j'aurais pas fait un bouquin pour raconter la vraie vérité horrible des Kurdes, mais probablement j'aurais pas fait de bouquin du tout. Et ce que j'ai vu, c'est effectivement, c'était la bonne version, avec plein de contradictions, mais bon. C'est normal. Et il y a des trucs que j'ai pas vu des trucs horribles que j'ai pas voulu raconter. Mmh. Mais par exemple, au bout d'un moment, on nous a dit que il y avait des quand ils attrapaient des militants de Daesh, ils allaient en prison, ils ne les torturaient pas, ouais. Ils les interrogeaient, ils leur posaient des questions et tout ça. Après, ils les soignaient, mais non seulement du point de vue physique, mais même psychologique et tout. Après, ils disaient non, mais quand après ils sont soignés, on les accompagne à la frontière et on les laisse. Et pour nous montrer ça, ils nous ont dit si vous voulez bien, on vous montre une prison, comme ça vous voyez comment on les traite et tout ça. Et ça, mes copains qui ont voyagé avec moi, ils m'ont dit non mais c'est super intéressant. En plus, effectivement, il n'y avait aucune image, aucun reportage des prisons de Daesh à l'époque et tout ça. Mais moi, je me suis dit que j'avais pas envie de raconter ça parce que je peux pas raconter comment des personnes sont traitées si les gens qui les gardent veulent me montrer juste une. Oui. Voilà, moi j'ai toujours le souvenir du G8 de Gênes où un ministre était allé dans une prison où les manifestants étaient normalement gardés et il a dit non mais c'est un hôtel à 5 étoiles, tout se passe très bien, alors que dans la pièce d'à côté il y avait des trucs horribles qui se passaient. Alors j'ai dit écoutez, moi si je peux rester là 6 mois et je vois tout le... À partir du moment où vous les attrapez, au moment où vous les lâchez, je vois toutes les étapes. Je veux bien raconter, mais sinon, je vous fais confiance, mais j'ai pas envie de devenir un outil de propagande.
Ouais.
Donc voilà, il y a des trucs que je connais pas et que j'ai préféré ne pas raconter.
Ouais. Mais en même temps, je sais pas si vous avez vécu ça comme un moment journalistique, mais c'est pas non plus du. Dans les coups, on parlait d'autres Russies. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
C'est une bande dessinée c'est du documentaire, une bande dessinée.
Voilà.
C'est une jeune auteure russe.
Et elle raconte un peu la vie des Russes, mais voilà, dans la Russie actuelle, où il y a quand même beaucoup de gens qui vivent des choses très dures. Et il y a un côté, effectivement, journalisme, mais elle se le revendique quasiment. Tandis que là, dans le fond, il y a... Militant, ça ne veut pas dire des bêtises, mais ça veut dire aussi protéger une certaine forme de vision des choses.
Oui, tout à fait. Ouais. De toute façon, c'est un livre qui choisit son camp depuis le début.
Oui. Donc, Sans pour autre, évidemment. Mais bon. Bref.
Alors, on arrive malheureusement déjà à la fin de cette interview. Donc, on passe à la question dessinée de Zoro Calcara. Alors, la question dessinée, c'est qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de ces voyages, à part... j'imagine plein de souvenirs, les souvenirs des lentilles et les lentilles au petit déjeuner, parce qu'apparemment les Kurdes adorent manger des lentilles au petit déjeuner. Donc, est-ce que vous pourrez nous dire ce qui vous reste le plus de ces voyages aujourd'hui ?
Là, il va dessiner des lentilles. Hein.
Voilà. Merci.
Je réponds par écrit.
Oui.
Par dessin.
Merci beaucoup, Zoro Calcara, d'être avec nous. Grazie mille.
Grazie a voi.
Et donc, n'hésitez pas à aller acheter Kobane Calling et très librairie. Bien. Thank you.
noi non fummo per esistere, ma dati al mondo per resistere, con nuovi nomi al volto. Si cambiò l'orgoglio in desiderio, le sconfitte in determinazione, il pianto e lacrime di piombo. Così nei dintorni dell'8 settembre fummo pronti a fare a pugni con la vita. Così senza mai piegarci alla fatica affrontammo una salita che non finiva mai. Ai 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 ai. Mai ai 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 ai. Ribellarsi non assomigliava affatto al vanto di una sera, ci scegliemmo la bandiera. Signore dei banditi, oltre la pelle non abbiamo altro da dare se non questa preghiera. Fa che i figli del nostro sacrificio portino nel cuore sangue e libertà. Fa che ancora tra 100 anni ci sarà chi curerà questa ferita che non guarisce mai. Ai 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 ai. Mai ai 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 ai. Mai ai 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 ai. Che non guarisce mai.
Deuxième morceau de la soirée, la preghiera dei banditi du groupe Atalessia Group. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité BD. Ce soir, on va vous parler de la ligne des super, de la Ligue des Superféministes de Myriam Mal, publiée par les éditions La Ville Brûle en janvier 2019. Les Linceuls du Nouveau Monde de Christophe Girard, publié par les éditions Les Enfants Rouges en octobre 2019. Mehmet d'Isabelle Lacelli et Noémie Marsali, publié en octobre 2019 par les éditions L'Employé du Mois. Mais on commence par la Ligue des Superféministes. Julia, on t'écoute.
Merci Camilla. Alors oui, La Ligue des Superféministes, c'est une BD de Myriam Mal qui est parue en janvier 2019 aux éditions La Ville Brûle. C'est une BD d'une 30aine de pages en couleur qui traite des bases du féminisme. Donc c'est une BD pour enfants qui vise à se faire se questionner le lecteur sur les inégalités hommes-femmes. Myriam Mal traite de sujets divers de manière pédagogique. À certains égards, ça m'a fait penser à Beauté Fatale de Mona Chollet, avec des sujets assez disparates mais qui forment un ensemble assez agréable à lire. Et donc c'est, je me dis que c'est peut-être pas un hasard si cette BD m'a fait penser à un livre, parce qu'elle est construite un peu de la même manière. Il y a des chapitres thématiques qui développent un argumentaire avec des encadrés qui précisent certaines notions. Donc c'est, pour moi c'est un peu un bémol de la BD, cette structure, c'est-à-dire que ça donne un peu l'impression d'un texte qui a été illustré plutôt que d'une BD qui explorait les pleines potentialités du format dessiné. Alors après, c'est peut-être dû à l'objectif pédagogique de l'auteur, justement, parce que le dessin est assez classique. Même si on reconnaît la patte de Myriam Mal, on sent que le but est avant tout de faire passer les idées du texte. Voilà, sur le fond, l'auteur aborde plusieurs sujets ludiques, les représentations sociales, l'amitié et l'amour, la beauté, et des sujets plus pointus aussi, comme le genre et l'intersectionnalité. Je pense que c'est définitivement instructif pour les enfants, et même une bonne partie des adultes. Elle aborde notamment les questions qui causent des débats récurrents, comme l'écriture inclusive ou le consentement. Voilà, donc même pour le lecteur averti, on apprend des choses, comme par exemple, il y a un passage où elle raconte qu'entre 18 et 25 ans, une fille sur deux préférait se faire rouler dessus par un camion que d'être grosse. Bon, j'aimerais bien voir la source de ces statistiques, mais c'était assez marrant quand même à voir. Après, c'est une BD, donc, comme j'ai dit, qui est destinée aux enfants, donc en tant qu'adulte, on peut être gêné par le côté un peu didactique et puis potentiellement normatif, même si c'est des normes féministes qui sont posées, il y a un petit peu un ton... voilà, qui conseille ce qu'il faut penser, ce qu'il faudrait penser dans l'idéal politiquement, quoi. Voilà. Et à la lecture, donc ça m'a fait penser aux BD politiques un peu du quotidien qui fleurissent en ce moment. Par exemple, vous avez peut-être lu Emma sur la charge mentale. Il y a pas mal de blogs voilà, féministes qui sortent ces dernières années. Et ça me réjouit vraiment que ce type de production se développe pour un jeune public aussi, quoi. Toi, Camilla, t'as apprécié ou pas ?
Oui, moi, j'ai trouvé ça très, très bien construit. Et aussi, je trouve que c'est vraiment très adapté à un public jeunesse. Et comme tu disais,
aussi, moi je le trouvais très instructif, j'ai appris des choses que je ne savais pas malgré le fait que je me retiens féministe depuis pas mal d'années, donc je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Une plus le dessin, oui, est classique, mais je le trouve chouette. Il a Mirman a quand même mal à la patate en dessinant.
Ouais.
Et après, je trouvais aussi la façon de traiter les sujets. Elle arrive à être drôle et en même temps assez précise sur les sujets. Je trouve ça très bien expliqué, toute la façon dont les femmes, dont oui, on sont toujours considérées par leur beauté, et qu'à un certain moment, ça va être vécu par les femmes même. Donc effectivement, quand on arrive genre à 40 ans et on trouve que finalement on est moche parce qu'on est vieille, et je trouve ça tellement horrible. Donc moi, je n'hésiterai pas à offrir cette bande dessinée à tous les enfants que vous connaissez. Je pense qu'à partir, déjà, elle peut être lue quand même déjà à partir de je sais pas, des 8 ans.
Ouais, des 8 ans.
Et après, je trouve aussi que certaines choses très délicates, comme les consentements, sont très bien expliquées,
ouais,
mais en montant de façon pudique et drôle.
Donc, moi, je pense qu'on peut l'offrir à certains adultes aussi. Hein.
Oui, oui, je pense. Mais donc, n'hésitez pas à aller acheter et lire cette bande dessinée, La Ligue des Super Féministes. On poursuit avec Les Linceuls du Vieux Monde de Christophe Gérard, publié par les éditions Les Enfants Rouges en octobre 2019. Effectivement, Les Enfants Rouges, ils ont publié une version intégrale en 2019, donc il y a 3 volumes. Tout à l'heure, en annonçant le titre de la BD, je me suis trompée, mais voilà, j'ai bien corrigé. C'est bien donc Les Linceuls du Vieux Monde de Christophe de Gérard. Pierre-Paul, je te laisse la parole.
Christophe Girard, qui est cette personne? Je suis absolument stupéfait par le travail qui a été effectué par ce dessinateur, cet ancien combattant de Yougoslavie, qui à un moment décide, en fait, lui qui est lyonnais et habite à Lyon depuis une multitude de générations, et qui décide à un moment de reprendre la révolte des canis pour en faire une BD. Donc ouais, en effet, 3 tomes, Le Linceul du Vieux Monde, Vieux Monde, Nouveau Monde, en fait Camilla, c'est à peu près la même chose, puisqu'on retrouve les mêmes problématiques. 3 bouquins, La Révolte des Canus, La Déroute, À l'aube du rêve, où on suit en fait, limite heure par heure, la transformation, l'avancée en fait de cette révolution qui à la base est partie juste sur une problématique de tarifs. Alors, il faut s'en souvenir, Lyon c'est une grande ville, François 1er a permis en fait de faire des ateliers gigantesques, on a des verres à soie un peu partout, jusque dans les Cévennes, je les ai vus, et tout revient à Lyon, et là on a quoi? On a une pyramide. 400 négociants ou fabricants qui achètent et fournissent la matière première, 8000 chefs d'atelier ou maîtres ouvriers qui sont propriétaires des métiers, et puis les 40 000 compagnons ouvriers, les apprentis tisseurs, et une multitude d'anonymes, des femmes, des enfants, des orphelins qui sont complètement exploités par l'église, et tous les cueilleurs qui sont tout autour de Lyon, et tout ça qui fonctionne grâce à l'industrie, grâce... grâce au capitalisme, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, en fait, les gens ne veulent pas augmenter les tarifs parce qu'on a un problème, on a les Chinois. Les Chinois, ils sont loin et ils commencent à faire de la soie, mais de la soie de moindre bonne qualité. Et donc, vous comprenez, on est obligé, en fait, de baisser les coûts et on est obligé, en fait, de ne pas payer les gens. Et là, c'est la révolte. Là, les gens commencent à péter un câble. C'est formidable. Christophe Girard, il s'éclate. Et il fait un dessin en noir et blanc à base de stylo à billes qui te prend aux tripes. Ça, vraiment, autant j'avais pu faire une chronique la dernière fois en trouvant que les dessins sont un peu plats et tout, autant là, on est complètement emporté. On sent vraiment l'inspiration. Une inspiration au niveau des gravures, au niveau de tout le travail de recherche qui a été fait. Donc j'ai un peu fait regarder. Il a pris des rapports de police, des archives, des mémoires. Enfin, il a pris la mémoire en fait écrite, mais la mémoire aussi des gens. Il a demandé à des personnes, mais est-ce que tu te souviens, ton grand-père, ton grand-mère? Il dit, ah oui, moi je m'en souviens, on m'avait dit ça. Et donc là, qu'est-ce qui permet, Christophe Girard, il permet de retrouver le visage et les noms des anonymes. Alors ça, c'est génial. Enfin, moi, j'ai été complètement stupéfait. Nandi, t'en as pensé quoi?
Ben, stupéfaite aussi. Et effectivement, je pense qu'on peut dire que cet ultime tome du Linceul du Nouveau Monde, merci Camille. Enfin, du Nouveau Monde, oui, pourquoi pas aussi, mais du Vieux Monde, de Christophe Girard, changeons ce titre, de Christophe Girard aux Enfants Rouges, et l'occasion, comme le souligne sa catégorie hors collection d'ailleurs, de marquer un temps d'arrêt, un temps long, et sûrement effectivement un abîme. accéder à cet abîme par le linceul. On craint que ça stagne, un linceul, mais en fait c'est en trombe de mouvement quasi cinématographique qui confère des semblances d'animation, voire de réanimation. Vous savez, ce truc qu'on nomme âme. Et ça conflue, ça reflue, le nombre de personnages relève de la fresque hante, la fresque peuple, mais c'est aussi la fresque art, car il y a aussi l'art académique qui est repris, retravaillé, sorti des musées pour être placé au centre du linceul. Ingres et son monsieur Bertin, à la hache, assuré de la BD, de la croix et sa liberté guidant le peuple, ça bouge, vrombit, crève toile. Le serment du jeu de pommes, remixé, sauce panique, façon Canu, les paysans de l'Angélus de Millet, le tableau il le fuit, et après tout, d'une bulle l'autre ou l'éclatement. Merci l'art hors les murs. Merci aussi à ses réactivateurs. Car c'est là une des grandes qualités de cette œuvre aux allures de monument vivant. Vivant, on vous dit. En effet, en plus de son aspect très cinématographique, comme je vous le disais, ce qui confère de la vie, c'est la qualité et la quantité de connaissances. Car le linceul est la trame de récits historiques, de ses résurrections, concernant la majorité s'adressant à tous. Et par une BD, parfaitement, un Éric Villard avec La guerre des pauvres, paru cette même année, récit bref, historique et cinglant, et du même genre de stupéfiant. Car on en a besoin ? Oui. Merci l'histoire hors université, hors discours, et enfin hors Paris, car laissons Paris à elle-même, elle sera toujours Paris, comme dit une autre chanson que celle des Canus. Donc, pour ceux qui ont entendu parler de cette révolte, plutôt que d'en faire un sujet mondain, qu'il tente l'immersion. Car le linceul du vieux monde en est une d'immersion, étant donné la qualité historique, n'hésitant pas à rentrer en complexité dans un moment que l'on traite en anecdote. Donc, c'est le genre de bouquin dessiné, œuvré, qui doit être dans la sacoche des profs et donc des élèves. Donc, c'est une œuvre pour ceux qui ressassent la commune et la révolte et qui donnent des idées, fût-ce à Karl, dit Marx, ou à Proudhon. Donc, c'est une œuvre pour se redonner la chance de se rendre compte qu'on vit dans l'histoire et que ce vieux monde, nous en sommes tant les couturiers, les ensevelisseurs, que ceux qui en triment et le trament. Donc, enfin, stop à l'histoire brève et anecdotique, glanée viteuf, terminée en une référence type la commune, les canuts, tout ça, nous nous sommes battus, revenons-y. Non, on ne brade pas ici, on ne fait pas de blabla politique. L'art brise l'anecdotique pour le danse et on s'interroge dans une révolte et ses résolutions. Alors, on peut reprocher au linceul d'être immense, mais c'est à la rencontre de ce qu'il porte et de ce qu'il pourrait porter d'avenir. Donc oui, linceul du Nouveau Monde. Alors, ça peut être parsemé de quelques gouailles lyonnaises, de gastronomie du genre doigt de la mort, clapoton, pied de mouton, pissenlit, mais franchement, c'est moyennement pour rire qu'on s'immerge dans ce festin où les hommes mangent les hommes et certains maintiennent leur appétit non capital et certains maintiennent leur appétit non cannibale et raisonné. Ces personnes se nommèrent Canu ou encore plus tard les voraces dans une autre révolte. Car il faut de l'appétit. Alors, offrez ce bon gros plat à penser et digérez sang et os l'histoire, avant qu'elle ne vous gobe. Et encore, partagez-le et offrez-le, bon sang, et nous tisserons le linceul du vieux monde, comme dit la chanson, mais la bonne. Et encore, bisous.
Alors, merci beaucoup, Nandi, pour cette belle chronique qui donne le frisson. Merci, Pierre-Paul. Et on poursuit et on termine ce soir.
Je me permets quand même de dire que je ne reverrai pas Guignol de la même façon, puisque Guignol est un canut. Ah, ça, moi, ça m'a complètement
Ouais, absolument, on apprend ça. C'est parti des trucs aussi. Il y a vraiment plein de détails historiques, mais ouais, Guignol est né de là. L'art est pas mal mis en valeur et dans l'art populaire. C'est vrai, Pierre-Paul.
Alors, on passe maintenant à Mehmet d'Isabelle Lacelli et Noémie Marcelli, publié en octobre 2019 par des éditions L'Employé des Mois. Je te laisse la parole, Michel.
Alors, donc j'ai lu Mehmet. Mehmet, donc, c'est, comme tu viens de dire, par Noémie Marcelli, qui est belge, hein, de son état. Elle avait fait aussi avant Fétiche au Roquin-Marteau. Et puis, elle était, ou encore peut-être, je ne sais pas, investie dans les fanzines. Et d'un autre côté, elle est dessinatrice, exploratrice, artistique, on va dire. Et il y a aussi Isabella Celli, ou Celli, si on dit correctement en italien, et qui est réalisatrice, elle, de formation, mais aussi photographe. Bref, donc ce Mehmet, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire qui semble assez simple, a priori, celle de vacances de différentes familles qui font du camping. Et donc vous y trouvez Roman, en caravane, avec son ami néerlandais qui passe son temps à filmer grâce à sa caméra. Et puis il y a aussi une petite anglaise qui se balade, qui ne se fait pas beaucoup de copines, elle, et qui cherche une substitution à ses copines-là. Donc elle pense à un chien qui prend la forme d'une peluche, mais qu'elle n'arrive pas à obtenir dans un jeu de foire. et donc qu'elle remplace par une bouteille qu'elle tire avec une ficelle. Alors il y a ces deux mondes, hein, entre filles et garçons, qu'on vit souvent dans les moments de vacances et qui peinent à se trouver. Il y a des contacts, mais ça marche pas vraiment bien. Et puis il y a autre chose qui traîne dans ce cadre estival, une légère odeur de roussi. Alors le dessin est réalisé au crayon de couleur, dans un style assez enfantin et en même temps évidemment quand même assuré. Donc quand je dis en même temps ici, je sais, Macron a confisqué l'usage de ce terme et à chaque fois que je le dis, je pense à lui, je pense à nous. Bref, beaucoup de couleurs, pour revenir aux couleurs, assez pastel pour les scènes diurnes et plus contrasté pour les scènes nocturnes que j'ai trouvé vraiment les plus réussies d'un point de vue esthétique. Les autres caractéristiques de l'album sont l'absence de cases et la rareté des dialogues, lesquels sont en français, en anglais et en néerlandais. Ce qui vous fait utiliser un traducteur en ligne, pour moi c'était DeepL pour le néerlandais. En réalité, il n'y a pas vraiment besoin de ces traductions parce que la narration est très visuelle. La compréhension est fluide, d'ailleurs, elle est bien réussie parce que les séquences sont bien agencées. Mais comment j'ai vécu cette lecture ? Pas de façon aussi simple que ça. Au début, j'étais assez peu attiré par le style du dessin. Ça, c'est un euphémisme. J'avais pas envie de le lire, de lire cette BD parce que... au départ, je l'ai survolé. Ce qui a provoqué en plus une certaine confusion dans ma compréhension et je pestais. Et puis à la fin, il y a eu cette page qui m'a piqué le nez et les yeux au sens propre. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose en plus que j'avais pas complètement raté, mais pas complètement non plus saisi. Et j'ai fait une deuxième lecture. Et là, j'ai pu enfin pleinement jouir de l'album. Alors, je vais essayer de vous allécher sans vous dévoiler le contenu. Je peux vous dire la chose suivante, c'est que sous les apparences comme ça enfantines et anodines, il y a en fait la mort qui rôde. Et quand vous mêlez la mort aux enfants, ça fait évidemment un truc un peu détonnant. Quoi ? C'est pas vrai ? Ça l'étonne ?
Merci, bon, et... Merci Michel. Et... Alors,
toi, tu l'as lu aussi ?
Recette oui. Marmiton,
Bangle. Oui.
Petit alors... Grégory.
Oui, non, j'ai pas entendu.
Oui, pardon.
Dites-moi. On vous écoute.
Non, on ricane.
Que c'était une bonne recette, mais oui, d'accord. Continuez, Camilla.
Alors, oui, donc moi aussi, je lis cette BD. Et pour moi, c'est clairement mon coup de cœur de l'année. C'est une BD que j'étais pas très attirée par cette BD pour l'absence des dialogues, parce que pour moi, les textes, c'est hyper important de les donner.
Dans une BD.
Oui, dans une BD. Donc au début, j'avais pas du tout envie de la lire. Et après, effectivement, en feuilletant les pages, j'étais quand même frappée par ses dessins et une crayon couleur assez impressionnante. Ça rappelle un peu les styles de Julie Delporte, mais sans être tout à fait pareil. Et je suis assez d'accord avec toi, Michel, sur la beauté des scènes nocturnes. Et surtout que ça nous rappelle tellement les nuits d'été, quand on était enfant et tout ça. Et en plus, j'ai franchement adoré cette histoire de la mort liée aux animaux. Parce que pour moi...
Ah, tu dévoiles.
Oui. Oui, je dévoile. Mais non, je dévoile. En disant ça, on dévoile pas. On n'est pas en train de faire du spoiler. Mais je trouve qu'effectivement, cet argument de la mort, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous aussi, d'avoir votre premier contact avec la mort à travers les animaux. Moi, ça m'est arrivé. Et là, je me profite pour rappeler la mémoire de mon petit oiseau Titi qui est mort quand j'étais petite. Et ne rigolez pas parce que pour moi, c'était vraiment un drame. J'ai rempli mon cahier intime pendant une année, mais rappelant des titis. Et franchement, cette truc est tellement violent pour les enfants, mais tellement important dans la vie de chaque enfant. Donc n'hésitez pas à offrir un petit chat à vos enfants pour qu'à un certain moment, il va mourir, il va comprendre que la vie, il y a aussi de la mort dans la vie. Donc surtout, ne ratez pas cette bande dessinée géniale. Donc Mehmet de Isabella Celi et Noémie Marsali, publiée en octobre 2019 par les éditions L'Employé du Mois. Alors, nous, avec Strip Sismic, on vous donne rendez-vous en janvier 2020 pour notre cinquième émission. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité de Nandi Jikalou, Julia Legrand, Michel Carton et réalisée par Pierre-Paul Sens. À très bientôt sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous.
Bonne soirée, bisous.
À bientôt.